Les colloques du Collège de France.
Voilà, donc moi je suis Jean-Marc Touzard, je suis économiste à l'Institut national de recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, avant c'était INRA. Je suis de Montpellier et moi je travaille sur les processus d'innovation et de transition dans l'agriculture, dans les systèmes alimentaires face aux enjeux notamment d'adaptation au changement climatique, avec un terrain fétiche depuis 30 ans, la vigne et le vin. Donc quand Marc Fontcade m'a demandé de venir pour parler de vraiment comment se construisent, s'analysent les stratégies d'adaptation dans l'agriculture, je dis ok, mais je vais partir vraiment de tous mes travaux sur la vigne et le vin, puis ça va concrétiser vraiment mes propos. Alors j'aurai quand même un message final général qui concernera l'agriculture, donc je vous livre tout de suite. L'agriculture est particulièrement vulnérable face au changement climatique. Son adaptation repose sur des processus biologiques qui ont leur propre mécanisme adaptatif et sur la construction de stratégies qui combinent des actions dans plusieurs domaines à différentes échelles et temporalités qui sont fortement inscrites dans des territoires et leurs écosystèmes, sont liées au comportement alimentaire et doivent se coupler aux actions d'atténuation et de capture du carbone. Si j'ai pas le temps d'arriver à la conclusion, voilà, ça, c'est une synthèse de la conclusion. Et il y a une deuxième dimension sur laquelle je vais insister, un peu plus réflexive sur nos activités de scientifiques, c'est les chercheurs qui étudient et accompagnent ces adaptations s'engagent dans un nouveau régime de construction de connaissances interdisciplinaire, systémique, participatif et médiatique. Et donc, pour arriver à cette conclusion, je vais vous emmener à travers le monde du vin. Alors, il y en a peut-être qui ont fait le Dry January, vous savez, c'est une nouvelle tendance. Moi, je suis pas trop pour, mais bon. Mais là, vous pourrez compenser symboliquement, voire intellectuellement, je vais vous emmener dans le monde du vin. Alors, le vin. Pourquoi le vin? En fait, la question du changement climatique, elle est vraiment montée très tôt dans le secteur du vin. On peut considérer que c'est un secteur un peu marqueur, voire précurseur sur le vin. Après Rio, on a des premiers travaux isolés, on a des observations sur l'avancée des dates de vendange, qui sont vues comme un marqueur du changement climatique. Le roi Ladurie lui-même a contribué à ça, par exemple. En 2003, avec cette vague de chaleur qui a marqué l'agriculture, la viticulture a été concernée. On a vraiment l'émergence et la question dans les médias, chez les viticulteurs, de cette question, avec les premières études qu'on lance côté INRAE. Et puis, vraiment, à partir de 2007, dans le contexte aussi du quatrième rapport du GIEC, on a vraiment monter des inquiétudes des viticulteurs, de leurs organisations. Est-ce que le changement climatique ne va pas bouleverser nos rendements? On voit qu'il y a des changements dans les dates de vendange, les qualités, les maladies. Et de fait, on va voir pour c'est un secteur exemplaire, modèle, parce que la vigne et le vin sont très sensibles au climat. On verra sur les rendements, sur les qualités. La valeur même du vin, elle est fondée sur le climat. On a figé des conditions pédoclimatiques à travers les systèmes d'appellation, et qui fait que la valeur est liée à cette appellation qui est liée au climat. Et si on bouleverse le climat, on risque de bouleverser la valeur. Le millésime, vous imaginez, c'est inouï. Ça, on a transformé un problème qui est une variabilité interannuelle de qualité liée au climat, en un atout. Évidemment, chaque année, le millésime est meilleur que l'année précédente. Donc, toute la construction de la valeur, elle est liée au climat dans ce secteur. Donc, les viticulteurs investissent à long terme. Donc, forcément, si on plante aujourd'hui de la vigne, on doit réfléchir à ce qui va devenir dans 40-50 ans, donc au changement climatique. Et puis, le secteur a une place économique, sociale importante en France. Cette question, elle était très, très forte et montante en 2011 dans beaucoup de laboratoires à l'INRA. Et l'INRA a monté un métaprogramme, un grand programme transversal sur l'adaptation au changement climatique pour vraiment avancer dans tous les secteurs. Et donc, nous, on y a répondu. On était une centaine de chercheurs, doctorants, quand même, dans tous ces labos, dans tous les vignobles, avec des disciplines de la climatologie jusqu'à la sociologie, pour travailler sur ces questions d'impact du changement climatique sur la vigne et le vin, et surtout les étudier et voire accompagner les stratégies d'adaptation. Donc j'ai coordonné avec Nathalie Ollat ce programme pendant 10 ans, et programme qui continue encore aujourd'hui, qui a continué parce qu'on a fait un ouvrage en 2024, puis l'année dernière en anglais, qui a eu un prix, je me fais un peu de promo, le prix international, l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Et donc ce que je vais vous présenter, c'est aussi des choses qui sont extraites de toute cette contribution collective de cet ouvrage. La première chose qu'on fait évidemment, en démarrant notre programme, et dès qu'on veut parler d'adaptation, c'est quels sont les impacts, quelles sont les vulnérabilités, etc. Donc, on a commencé par travailler là-dessus. Alors, la vigne et le vin, ben, il y a au moins 6 domaines. Déjà, on voit, il y a différents impacts. C'est compliqué. Il y a des tas d'impacts et qui interagissent entre eux. Waouh! Donc, d'abord, premier impact, c'est ce qu'on appelle sur la phénologie, sur les stades de développement de la vigne, de la plante, hein, depuis le débourrement, qui est de plus en plus précoce, lié aux hivers plus doux, avec donc des risques de gel. Pas parce qu'il y a plus de gel plus intense, au contraire, mais parce que le débourrement est plus précoce, donc elle est plus exposée au gel, jusqu'à la date de vendange, hein, la période de maturité du raisin, qui est aujourd'hui avancée, les dates de vendange sont en moyenne de 3 semaines par rapport avant les années 80, hein, dans toutes les régions, à peu près, avec une certaine convergence même, et avec un effet d'amplification sur les conditions de maturité. Ça, c'est une courbe, par exemple, c'est la courbe de la température maximale journalière en Alsace, hein, en récente, 75-2005, projetée à plus de degrés, 2050, ok. Et en fait, comme on a une précocité de la période de maturité, c'est les courbes, ben, c'est pas authentique, on remonte vers le haut de la courbe de température, et donc c'est pas plus 2 degrés qu'on aura sur la période de maturité en 2050, c'est plus 3,8 degrés. Donc ça amplifie tous les mécanismes sur lesquels la température, par exemple, va jouer au niveau de la construction de la qualité. La deuxième dimension, c'est évoqué ce matin, c'est sur la contrainte hydrique, hein, plus d'évapotranspiration, c'est la courbe en rouge, des pluies, là c'est du côté en Languedoc, qui ont quand même tendance aussi à baisser, donc un bilan hydrique sur la période végétative qui est de plus en plus aggravé, ce qui veut dire qu'on reporte sur les réserves qui se constituent durant l'hiver, la capacité que va avoir la vigne à avoir assez d'eau pour faire du bon raisin, pour faire du bon vin. Et ça se traduit par des diminutions de taille de la baie, du raisin, ça c'est dans la vallée du Rhône, le collègue Iñaki Garcia de Cortázar qui a suivi ça, et par des baisses de rendement qu'on voit surtout dans le sud de la France, hein, sur toutes les catégories de vins. Troisième domaine d'impact, et ça c'est ce qui a été sensible très rapidement, c'est sur la qualité des vins, c'est-à-dire sur la composition du raisin. Hein, beaucoup de cinétique de molécules ou de concentration sont liées à la variable température, hein, et ou au stress hydrique éventuellement. Donc du coup, ben, on a une augmentation du taux de sucre dans les raisins, aussi parce que les baies sont plus petites, hein, et donc plus d'alcool dans le vin. On est depuis 4-5 ans à plus de 14 degrés en moyenne sur les vins rouges en Languedoc, par exemple, hein, et une baisse de l'acidité, parce que là, par exemple, l'acide malique se dégrade plus rapidement. Donc c'est des déséquilibres dans les caractéristiques du vin qui vont dans un sens qui n'est pas forcément de mauvaise qualité, mais qui ne correspond pas aux attentes du consommateur qui cherche plutôt à avoir des vins avec un peu moins d'alcool, plus de fraîcheur, par exemple. Donc, impact énorme. Un quatrième domaine d'impact, c'est sur les aires où on peut planter du vin, de la vigne, excusez-moi, on peut planter de la vigne, avec des nouvelles opportunités au nord de l'Europe et des difficultés au sud de l'Europe. Ça va bouleverser toute la carte du vin, toutes les logiques. Hein. On a fait une étude, par exemple, en Bretagne, où on voit, alors là, on a poussé un peu sur un scénario extrême, mais voilà, on peut, effectivement, toute la Bretagne, à la fin du siècle, peut devenir un grand vignoble, et y compris avec des cépages méridionaux à Nantes. Un cinquième domaine, ça a été aussi évoqué ce matin, à propos des micro-organismes, c'est que, au début, on n'avait pas senti ça comme ça, mais c'est de plus en plus important. Le changement climatique a des tas d'effets indirects, joue sur les écosystèmes, sur les bioagresseurs, sur les agresseurs des bioagresseurs, sur le fonctionnement du sol, sur les paysages, sur les incendies, sur la ressource en eau, sur l'irrigation, etc. Et il y a des tas d'effets indirects à travers les impacts sur les écosystèmes, et donc sur le terroir. Hein. Et puis, dernier domaine d'impact, c'est l'augmentation des risques directement climatiques, de destruction, de perte de récolte, de mortalité ou de dégradation même des parcelles. Une pluie torrentielle, ça vous lessive une parcelle, ça entraîne des terrasses et ça vous détruit tout un patrimoine qui est important. Donc tout ça, ça se cumule, et in fine, ça fait des impacts économiques en cascade, baisse de revenus pour les viticulteurs, augmentation du risque économique et donc des coûts d'assurance si on s'assure, impact potentiel sur la valeur du vignoble, on le voit déjà dans le sud de la France, ça inquiète quand même les champenois, où il y a, voilà, une vigne, ça vaut moins plus d'un million d'euros l'hectare, hein, en Champagne. Voilà, si jamais on dit que le changement climatique va tout remettre en cause, on ne pourra plus faire du champagne en Champagne dans 10-20 ans, c'est la panique, quoi, dans les patrimoines, chez les investisseurs, ou même dans les familles. Ça peut entraîner la modification de hiérarchie entre terroir et vin, ça a des impacts sur la concurrence entre les gens viticoles, et ça déstabilise, comme je disais, l'ensemble du système des institutions qui cadrent l'économie et la construction de valeur dans cette filière. Et donc, alors, quand on a commencé à travailler d'abord sur ces questions d'impact, en fait, on a été aussi, titillé, agressé presque, par une publication de collègues américains qui ont fait des projections assez simples sur des à partir de variables agroclimatiques pour voir, avec des seuils maximum de température tolérée par les cépages, si on pouvait encore avoir de la viticulture en France, et en disant, voilà, 67% de du vignoble sera affecté en 2050. Voilà. Et nous, on a répondu dans PNAS, dans le même revue, en disant, non, c'est pas vrai. Parce que vous avez quand même un peu sous-estimé la capacité d'adaptation des cépages, quand même, sur des températures élevées. Et surtout, parce que l'hypothèse sous-jacente, c'est qu'il y avait, il n'y avait pas de changement de pratique. Il n'y avait pas d'adaptation. Alors que ça, c'est l'hypothèse qu'on ne peut pas faire, parce que depuis 8000 ans, les viticulteurs s'adaptent. Alors, à des rythmes très lents, mais ils s'adaptent plus rapidement. Donc, du coup, voilà, ça nous a vraiment, amené vraiment à travailler sur l'adaptation. Et surtout, ça nous a projeté aussi dans les médias, les scientifiques français sont pas d'accord, etc. Et à partir de ce moment-là, vers 2014, on va dire, on a conduit aussi une partie de nos travaux en interaction forte avec les médias, avec, voilà. Donc, on a travaillé sur les leviers d'adaptation, d'abord, de manière très analytique, domaine d'adaptation par domaine. Et là encore, il y a beaucoup de domaines différents. Je vais aller vite, parce que j'ai pas le temps de... Mais le premier domaine, c'est le changement de cépage. Hein. Il faut des cépages plus tardifs, plus tolérants à la sécheresse, aux températures, résistants aux maladies. Voilà, ça suppose à la fois des recherches en génétique, pour comprendre les mécanismes génétiques, biologiques d'adaptation, mais c'est aussi surtout de faire un état des lieux, de revisiter tous les cépages qui existent, qui ont parfois oublié chez les producteurs, chez les organisations, avec des tas d'options entre s'intéresser aux cépages actuels, rechercher des anciennes variétés qui n'arrivaient pas à maturité, qui maintenant arrivent à maturité, ou des variétés cultivées dans d'autres régions plus chaudes, ou créer carrément des hybrides, par exemple. Le deuxième domaine d'adaptation, c'est les pratiques viticoles elles-mêmes. Là, on est à la parcelle. On va chercher à expérimenter, à ajuster les pratiques pour adapter la vigne. Donc, il y a toute une gamme de variétés, toute une gamme de pratiques importantes depuis des interventions très au cours de l'année, hein, ponctuelles, des feuillages, le taille en verre pour limiter la photosynthèse, la perte en eau de la vigne, par exemple, pour adapter en fonction d'un. Ça peut être changer des densités de vigne, la taille elle-même plus globalement pour avoir un port du feuillage qui va préserver, par exemple, les grappes des rayonnements du soleil, la gestion du sol, très important, matière organique pour renforcer la capacité en eau du sol, agroforesterie, gestion des pourtours, tie-line design, c'est vraiment la gestion globale de la parcelle dans son paysage pour mieux capter de l'eau, par exemple. C'est l'irrigation, question d'actualité importante, alors à goutte à goutte, selon les besoins de la vigne, des objectifs de production et la disponibilité de la ressource. Et puis aussi, derrière les pratiques, c'est comment on est informé de l'état du sol, voilà, il y a des enjeux d'accès, d'information, de partage d'informations sur ces pratiques. Le troisième domaine, c'est sur les nouvelles pratiques œnologiques. Là, on est dans une autre logique. On va chercher à corriger ex post des impacts du changement climatique. Hein, en réduisant la teneur en alcool, désalcoolisation, il y a de nouvelles techniques qui sont peu perturbantes pour les autres caractéristiques du vin, ajuster le pH par électrodialyse, gérer la température dans les vendanges pour éviter des risques d'oxydation, par exemple. Hein. On peut sélectionner une nouvelle levure. Autrefois, on sélectionnait des levures pour leur rendement maximum dans la transformation sucre-alcool. Maintenant, c'est plus la peine. On va chercher à avoir des levures qui expriment davantage les arômes, par exemple. Le quatrième domaine d'adaptation, c'est... pour s'adapter, on peut aussi bouger, quoi. Alors, c'est... Au sein d'un même terroir, là par exemple c'est à Saint-Émilion, mais il faut revisiter la manière dont avec le changement climatique les différents sols s'expriment, hein, peuvent impacter la vigne. Et puis on va là un doctorant qui a travaillé sur Banyuls, on va voir comment on peut jouer sur l'altitude, monter en altitude pour gagner en fraîcheur et donc en acidité. Là c'est la carte à droite, c'est une simulation de l'évolution de l'acidité des raisins. Du Grenache, hein, donc ça, ce qui implique de monter en altitude. À droite, c'est la mer, en vert. C'est évidemment changer, monter en altitude, ça veut dire changer les limites des aires d'appellation, et puis se relocaliser, créer de nouveaux vignobles. En Bretagne, on a plus de 200 hectares maintenant de vignes, quand même, une vingtaine de producteurs professionnels qui commencent à vendre dans les fest-noz ou aux touristes. Un cinquième domaine d'adaptation, on est dans un secteur qui est extrêmement régulé, plein d'institutions, j'évoquais l'INAO, c'est changer les institutions en tant que telles, c'est un levier d'adaptation. Changer les cahiers des charges, avoir une gestion globale du risque. On a une révision du système d'assurance, mais on voit qu'il faut la coupler avec des questions de prévention, d'alerte, d'investissement, d'un dispositif de réserve qui permet de passer le cap des années difficiles, etc. Une diversification, des innovations sociales aussi. De nouveaux outils politiques, de gestion de crise, la PAC, en train de négocier le paquet vin, donc qui intègre directement la question de l'adaptation au changement climatique, des aires agricoles, de résilience climatique, un nouveau dispositif qui est mis en place, voilà. Et puis, Les institutions, c'est aussi la manière de collaborer entre la recherche, les viticulteurs, en jouant sur la capacité que pourront avoir et la réactivité que vont pouvoir avoir nos réseaux de collaboration. Et puis, le dernier domaine d'adaptation, on n'avait pas trop envisagé au début, mais ça, c'est quand même affirmé comme important, c'est que s'adapter, c'est aussi construire des connaissances avec les consommateurs et les citoyens. D'abord, mieux connaître les perceptions des consommateurs face aux impacts du changement climatique sur le vin. Là, on a une thèse en économie expérimentale qui a montré que voilà, les consommateurs sont intéressés par les impacts, mais très rapidement, dès qu'ils consomment à plusieurs reprises, il y a une lassitude et donc effectivement un rejet des vins impactés par le changement climatique, comme j'évoquais tout à l'heure, plus d'alcool, plus de concentration, etc. Et puis, c'est aussi aller plus loin, c'est associer l'enjeu d'adaptation aux autres enjeux, notamment d'atténuation, enrôler les consommateurs, renouveler le récit autour du vin, pourquoi on innove, pourquoi on change, raconter l'histoire, parce que c'est un produit pour lequel la valeur économique est liée aux valeurs et aux récits, aux narratifs qu'on raconte. Vous avez envie de boire un vin parce qu'il vient de là, il est fait par un tel, comme de manière. Troisième étape, finalement, c'est qu'au-delà de ce découpage très analytique par domaine d'innovation, eh bien, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment combiner ces innovations pour construire des stratégies d'adaptation. Et donc, on a eu, pour ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a développé dans nos programmes de recherche des dispositifs collaboratifs à différentes étapes d'un processus d'innovation pour favoriser cette collaboration, cette connexion entre les leviers, depuis la création même des idées d'innovation, des hackathons dans les milieux viticoles, etc., un suivi avec, par exemple, des doctorants qui font de la modélisation d'accompagnement pour simuler quels seraient les cépages adaptés. Là, c'est au nord de Béziers, en fonction d'une simulation climatique. On coupe modèle climatique, modèle agronomique et même modèle économique pour évaluer des options d'adaptation. C'est des collaborations avec des réseaux existants de producteurs. C'est des collaborations avec des appellations, des syndicats d'appellation, des interprofessions sur leur propre stratégie, c'est plateforme numérique, c'est la formation. Et ça a surtout été la construction d'un exercice de prospective qu'on a mis en débat dans des régions, qui a débouché sur la construction d'une stratégie à l'échelle nationale. Je dis juste un mot, je détaille un petit peu cette démarche, parce qu'elle est originale, qui fait maintenant l'exemplaire. On la présente pour d'autres secteurs, y compris dans d'autres pays. Donc on a commencé, on a eu quatre étapes. La première étape, c'était on a construit, de manière assez classique, quatre scénarios, en disant il y a deux grandes dimensions de l'adaptation. Il y a l'innovation et la localisation. L'innovation, il n'y a soit pas d'innovation incrémentale, on y va un peu, beaucoup, on change beaucoup, voire complètement folle. Finalement, il suffit de mouiller, de rajouter de l'eau dans le vin pour baisser son degré d'alcool. On met des OGM, etc. Et puis l'autre dimension, c'est l'ampleur de la relocalisation. Soit on bouge pas, soit on se relocalise dans le terroir, on modifie les frontières, on va créer des vignobles ailleurs, ou même on artificialise la vigne, on la met sur des roulettes, sous des serres, voilà, pourquoi pas. En prospective, on peut aller jusqu'à ce genre de choses. Et du coup, on a construit quatre grands scénarios, conservateurs, innovants, nomades et libéral, et pour lesquels on a rassemblé des variables, on a fait de l'analyse matricielle, etc., qu'on a décrit, qu'on a mis en récit, qu'on a publié, qu'on a porté aux professionnels, à l'Assemblée nationale, dans la presse, etc. Et ce qui est important, c'est qu'ensuite, ces quatre scénarios, on aurait pu s'arrêter là, on se fait plaisir, on a exploré, tout ça. En fait, on les a mis en débat dans des séances, dans ce qu'on appelait des forums de prospective viticole, dans les grandes régions viticoles. À chaque fois, il y avait une centaine de viticulteurs et d'acteurs de la filière. On leur demandait de préciser dans leur région quels pouvaient être chacun de ces scénarios. On leur demandait de voter un petit peu sur chacun des scénarios, quelles attitudes stratégiques ils pouvaient avoir, et puis de faire des propositions d'action pour qu'un scénario se réalise ou qu'un autre ne se réalise pas. Et donc, voilà, 73% des acteurs des filières ont voté pour un scénario qui s'appelait « Innover pour rester dans mon terroir ». Et on a étudié ensuite toutes les propositions. À partir de ces propositions, on a constitué un groupe à l'échelle nationale avec les représentants des grandes institutions viticoles pour étudier toutes ces actions, faire un document d'orientation, il y a eu un travail, et avec une remise au final au ministre de l'Agriculture du plan de stratégie nationale d'adaptation de la filière au changement climatique. C'était en 2021, il y avait encore des masques. Juste pour vous dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a 7 domaines d'action, 50 actions, des pistes de travail. Et ce qui est intéressant, c'est la 7e. On a intégré dans les domaines d'action de l'adaptation contribuent à l'atténuation du changement climatique. C'était vu comme vraiment un élément clé. Ça a donné lieu ensuite à tout un dispositif de démonstrateurs territoriaux qui est en cours, qui a démarré il y a 2 ans, et qui s'appelle Vitiliance, où il y a des réseaux témoins d'expérimentation dans les grands vignobles qui sont, il y a eu un appel à projet, qui sont qui sont mis en place pour tester des combinaisons de leviers. Donc voilà, on teste des combinaisons de leviers, il y a l'animation, il y a ce qu'on appelle les climatours autour, etc. Bon, tout ça, c'est pour vous dire que dans cette construction, nous-mêmes, comme chercheurs, on a été amenés vraiment à rentrer dans ce que je disais, un nouveau régime de production de connaissances scientifiques, interdisciplinaires, systémiques, médiatiques. Et en fait, l'exercice qui a vraiment, qui a vraiment synthétisé cette démarche, c'était à la fin de notre projet en 2021, on s'est tous réunis avec nos partenaires, et un peu comme au GIEC, mais de manière très plus modeste, on s'est dit, on va définir ensemble nos messages, quoi. On a travaillé dessus pendant 3 jours, avec des ateliers, etc. Et puis ensuite, ces messages, on les a repris dans le bouquin, c'est les conclusions des bouquins, de l'année dernière. Ça a été ensuite repris par les médias. Le Monde en a même fait un article, hein, c'est vraiment avec le nom du projet dans le titre de l'article. Bref, puis France Inter, puis, hein. Et en fait, dedans, je vais aller rapidement, mais 3 messages de cadrage général. C'est très structuré, 3 messages de cadrage général. Il dit, 1, la compétitivité des vignobles est menacée par le changement climatique avec des différences régionales. Il y en a quand même des qui gagnent, d'autres qui perdent plus. 2, des innovations et solutions existent déjà. Donc après le malheur, il y a un espoir qui permet d'envisager que les viticulteurs peuvent s'adapter dans la plupart des vignobles actuels. Si le climat se stabilise autour de plus de degrés, si on retrouve un certain équilibre possible, hein. Et puis, la réduction des émissions de gaz à effet de serre est impérative. Et moi, j'avais un slogan qui a été repris. Si on aime le vin, on soutient les objectifs de la COP21. Et voilà. Ça marche. Il faut, voilà. On a ensuite 3 messages qui sont plus techniques, mais qui vont dans le sens de ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Et là, tous ensemble, on s'est mis d'accord, tous ensemble, c'est vraiment que le premier message technique, c'est autour des sols. La conservation et l'amélioration des sols viticoles est une urgence pour favoriser la résilience des vignobles en combinant enherbement maîtrisé, apport de matière organique, aménagement anti-érosion, etc. Un 2e message autour de la diversification du matériel végétal, qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les cépages, mais en disant qu'il y a aussi beaucoup de connaissances chez les viticulteurs. Et un 3e message, évidemment, autour de la gestion de l'eau, qui est sensible. Et donc, on a mis beaucoup de temps à écrire ce texte. Vous voyez, la gestion de l'eau doit être pensée de manière systémique, avant tout, hein, en jouant sur la gestion des terroirs qui régulent la circulation de l'eau et sa recharge issue des pluies d'hiver, l'importance. Hein. Une irrigation de précision est possible, permet de piloter l'état hydrique des vignes, mais sa généralisation n'est ni possible, ni forcément prioritaire. Elle suppose des pratiques économes et responsables, pas de pollution après. Et on a rajouté, ça renvoie aux enjeux de justice sociale, et un soutien aux innovations des vignobles non irrigués. D'ailleurs, ça va mettre le paquet uniquement sur l'irrigation, alors qu'il n'y a qu'un quart, par exemple, en Languedoc des viticulteurs qui peuvent y avoir accès. 3 messages qui sont peut-être plus nouveaux pour l'adaptation. L'hétérogénéité spatiale d'un terroir est une ressource pour l'adaptation, qui s'oppose de nouvelles connaissances. Ça appelle à une nouvelle ingénierie des terroirs viticoles, du job pour les futurs ingénieurs agro, une flexibilité des cahiers des charges, des vins d'appellation, mettant en avant, et ça c'est une directionnalité, une direction que j'ai redéfendue récemment à l'Assemblée nationale, sur l'appellation doit avoir une promesse maintenant davantage, pas sur la typicité ou l'originalité d'un vin lié au terroir et un climat qui n'est plus immuable, mais sur une promesse de gestion adaptative des ressources locales. L'eau, la biodiversité, le soin des temps. Ensuite, il existe déjà des moyens d'adapter la vinification, ok. Et la prise en compte des consommateurs est indispensable pour connaître leurs préférences. 3 messages de portée enfin plus stratégique. Les risques climatiques bouleversent les stratégies économiques. Les assurances doivent être associées à un soutien des investissements, etc., prévention, système d'information. Et à la diversification, un thème qui était souvent tabou dans pas mal de régions viticoles, notamment dans le sud de la France, qui est maintenant vraiment au cœur avec l'arrachage. L'enjeu majeur est de concevoir et d'évaluer des combinaisons de leviers d'adaptation en mobilisant des démarches participatives, hein, notamment à l'échelle locale. Et enfin, dernier message, il faut toujours clore ce genre d'exercice par de l'optimisme, en tout cas c'est mon point de vue. Reste optimiste, et c'est fondé sur la science, hein, on a fait des travaux y compris en analyse de systèmes d'innovation, etc., car le monde viticole conserve une place importante dans la société, est organisé, composé d'une diversité d'acteurs, de pratiques, de produits, et sait faire preuve de créativité. Donc, tout ça, c'est des éléments positifs. Juste, je vais pas dire, nous, on a accompagné ce genre de construction de messages par d'infographies, des contributions aux politiques publiques, des instances internationales, plein de passages dans la télé, les documentaires, la radio, les vidéos, tout ça. Donc, on est vraiment, et ça a même été jusqu'à, et moi, ça vraiment, je m'y attendais pas du tout, à, me forcer à m'investir dans le mouvement Stand Up for Science. C'est-à-dire, quand on a sorti notre bouquin l'année dernière, 21 Climate Change, je devais le présenter à un webinaire d'un Climate Hub de l'USDA, voilà, et 15 jours avant, c'était annulé. Et donc, j'ai été obligé de dire, voilà, j'ai pas pu présenter mon bouquin, notre bouquin sur Weinreich Climate Change, parce que la présentation est annulée aux États-Unis, parce qu'on ne peut plus discuter, parler, faire la promotion, ouvertement, en tout cas dans les agences fédérales, de questions climatiques, quoi. Donc, et on est pas mal du projet en travaillant simplement sur le vin, finalement, être aussi embarqué dans des considérations plus politiques à l'échelle nationale pour défendre la science. Terminé, c'est mes deux dernières diapos. Je reviens sur la généralisation. Donc moi, j'ai rédigé dans un bouquin qui est sorti l'année dernière de l'ensemble de mes collègues du métaprogramme, qui s'appelle Agriculture et changement climatique. J'ai rédigé l'introduction générale, le cadrage général sur l'adaptation. Et donc je me suis aussi inspiré de tout ce que je viens de vous raconter sur la viticulture pour, en voyant dans la littérature, en faisant un peu de biométrie, etc., comment on pouvait dégager des enseignements globalement, autour de l'adaptation pour l'agriculture. Donc, oui, l'agriculture est particulièrement vulnérable face au changement climatique. On retrouve ce que j'ai dit dans les autres cultures, des problèmes de phénologie, de rendement, de composition, de risque, de localisation, avec des enjeux socio-économiques en cascade, y compris sur les migrations, de sécurité alimentaire, de gestion de territoire. OK. Deuxièmement, l'adaptation à l'agriculture repose sur des processus biologiques qui ont leur propre mécanisme adaptatif, OK, y compris avec les bioagresseurs, mais bon, ça fait partie du jeu. Des stratégies qui combinent des actions dans plusieurs domaines. On va retrouver à peu près toujours le même domaine, changement de variété, de pratique, de logistique, différentes échelles et temporalités, de la PAC, la politique jusqu'à la parcelle, inscrits dans des territoires, portés par des connaissances d'agriculteurs et des comportements de consommateurs, orientés et verrouillés par différents systèmes régime socio-technique, j'ai pas le temps d'en parler, et qui peuvent se coupler aux actions d'atténuation ou capture des CO2. Et ma dernière slide, c'est de dire que c'est cette dimension plus réflexive, ce travail, ces programmes de recherche travaillant sur l'adaptation au changement climatique pour la vigne-vin, ça nous a amené à réfléchir, oui, à nos postures et à nos pratiques de scientifiques. Donc, on a dégagé une démarche générale qui rejoint ce qui se fait dans d'autres situations, de quel cadre d'analyse il faut mettre en œuvre pour accompagner la construction de stratégies d'adaptation, depuis la caractérisation du système jusqu'au renforcement de capacité des acteurs. Ensuite, on s'est engagé dans cette aventure vers des recherches plus systémiques, interdisciplinaires, participatives et médiatiques. Et finalement, ça conduit aussi à revoir un petit peu l'évolution de nos métiers de chercheurs. Alors certains restent dans les logiques classiques, académiques, mais d'autres se spécialisent ou se complètent leurs compétences. On reste, et c'est le socle, sur la connaissance de processus et d'expertise, OK, mais aussi on devient élaborateur de nouvelles méthodes, co-constructeur de solutions, débatteur, voire ouvreur d'espace pour la transformation des systèmes.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.